Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Podcast is a new radio.
Bon matin! Mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fais-tu frette, le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1, alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent, je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus, parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf? Bah, pas grand-chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabanon de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros. Bonne émission. La santé est au cœur de nos vies. C'en est presque un pléonasme. D'ailleurs, chaque année, au 1er janvier, on se souhaite bien une bonne santé. On ne souhaite pas un bon appétit, une belle carrière ou je ne sais quoi. Non, on se souhaite une bonne santé parce que là, elle est l'essentiel après tout. Alors évidemment, quand on a choisi de partir vivre dans un autre pays, cela fait partie des principaux sujets d'inquiétude. D'ailleurs, je soupçonne nombre de mes congénères et candidats au départ de se renseigner d'abord sur les modalités de prise en charge médicale avant même de se pencher sur les modalités administratives liées à l'immigration. Pourrais-je conserver la sécurité sociale? Serais-je couvert dès mon arrivée? Vais-je devoir hypothéquer ma maison à chaque fois que le petit dernier va devoir se faire soigner une carie? Eh bien, c'est quand même un poil stressant tout ça. Et du stress, en cette année de pandémie, eh ben, franchement, ce n'est pas ce qui a manqué. Confinement, hospitalisation, décomptes divers et variés, tests, vaccins, vous reconnaîtrez qu'il y a quand même de quoi se faire du mauvais sang. Mais voyez-vous, ici, au Québec, il y a eu pour moi une voie rassurante, une voie pédagogique, une voie qui arrivait à mettre du sens et de la perspective dans des décisions qui, bah, par essence, n'en offraient pas forcément beaucoup. Chacune de ces interventions médiatiques, croyez-moi, il y en a vraiment eu beaucoup, chacune de ces interventions médiatiques était une note d'espoir. Cette voix, c'est celle de Diane Lamar. Bonjour Diane.
Bonjour Jean-Michel.
Comment allez-vous? Puisqu'on parle de santé, c'est quand même la première question à vous poser. Comment allez-vous?
Je vais très bien. Je vais prudente, je vais sereine parce que la situation épidémiologique s'améliore, mais je reste quand même vigilante.
Oui, bah oui, c'est sûr qu'il y a, quand même de quoi. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui n'ont pas la chance comme moi de vivre au Québec, peut-être qu'ils ne vous connaissent pas, sauf s'ils ont suivi l'une de vos nombreuses conférences en France. Diane Lamarre, pharmacienne, professeure à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, ancienne présidente de l'Ordre des pharmaciens du Québec de 2009 à 2014. Donc, oui, pharmacienne, enfin pas n'importe laquelle pharmacienne, une pharmacienne qui compte dans le paysage, dans le paysage québécois. Et j'ai noté aussi ancienne présidente de Pharmaciens sans frontières pour le Canada. C'est pas neutre non plus. Il y a aussi, alors j'ai arrêté de compter parce que je n'en pouvais plus, mais de nombreux honneurs, distinctions reçues, notamment l'une des 100 québécoises les plus influentes. Enfin voilà, aujourd'hui on a la chance de parler à quelqu'un qui compte et qui sait de quoi elle parle. Et moi j'ai retenu deux faits principaux qui vont vachement nous aider aujourd'hui dans cette conversation. Diane est signataire de l'accord de reconnaissance France-Québec en 2009. C'est un accord qui nous concerne tous et qui nous facilite bien la vie. Et de par ses fonctions et ses nombreuses conférences, dont je parlais tout à l'heure, Diane a une très grande connaissance des systèmes de santé étrangers et notamment du système français. Et forcément, petit jeu des comparaisons, on va pouvoir s'amuser. Diane, j'ai vu dans une biographie que l'accès aux soins était l'une de vos priorités personnelles et un peu un engagement de toute une vie. Du coup, ma première question sera simple et directe. Est-ce que c'est facile de se soigner au Québec?
Alors, ça dépend. Si on parle d'accès aux soins ou si on parle d'accès à un médecin de famille.
Actuellement, on va commencer par les soins. Ouais. Médecin de famille, on y vient.
Alors, l'accès aux soins, il y a eu une évolution importante quand même au cours des 10 dernières années parce qu'on a ouvert les champs d'exercice de plusieurs professions qui étaient stagnants depuis 40 ans. Et ça, je crois que ça fait vraiment une amélioration de l'accès pour les pharmaciens, entre autres, mais aussi pour les infirmières, pour les physiothérapeutes, les psychologues. Il y a encore beaucoup de place à amélioration, mais on sent qu'il y a vraiment actuellement un mouvement qui reconnaît le besoin d'avoir cet accès plus global. Maintenant, au niveau il faut quand même parler de l'accès aux médecins de famille parce qu'actuellement, sur 8,5 millions de Québécois, il y en a 800 000 qui sont sur un guichet d'accès, donc qui demandent, il y en a plus que ça qui n'ont pas de médecin de famille, mais il y en a 800 000 qui demandent d'avoir accès à un médecin de famille. Et on a aussi au niveau des chirurgies, donc si on parle plus du côté des spécialistes, on a des délais aussi qui sont importants, qui ont été aggravés bien sûr par la pandémie de COVID, mais qui étaient déjà aussi présents et montrés du doigt avant la pandémie. Donc, c'est pas une situation parfaite, mais je pense que les problèmes sont nommés, en tout cas, qu'ils sont mieux compris et que là, on sent qu'il y a plus de gens qui veulent mettre la main à la pâte pour que ça change.
En France, on a un espèce de totem et quelque chose dont on est extrêmement fier, qui est la sécurité sociale. J'ai cru comprendre, enfin, oui, je sais un peu quand même, parce que ça fait un petit moment que je suis là maintenant, qu'il y a quelque chose d'assez similaire, en tout cas une hybride de sécurité sociale ici au Québec, mais qui est assez propre au Québec, pas forcément au Canada et alors encore moins aux États-Unis.
Oui, en particulier pour les médicaments. En fait, l'assurance maladie, l'assurance hospitalisation, elle est pan-canadienne et elle existe depuis les années 70. Mais pour les médicaments, il y a que le Québec qui oblige en fait une assurance médicaments universelle depuis 1998. Et ce programme fait en sorte qu'effectivement, il n'y a plus vraiment de raison pour les gens de ne pas avoir accès à la médication dont ils ont besoin. C'est un régime hybride, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont assurés par le gouvernement, entre autres les aînés, les 0-18 ans, mais il y a aussi des gens qui peuvent être assurés par le biais de leurs employeurs. Et ces employeurs sont tenus de couvrir au minimum les mêmes médicaments que ce que le régime général d'assurance médicaments, donc ce que la Régie d'assurance maladie du Québec couvre comme médicaments, et il y en a beaucoup, là, il y a des milliers de médicaments, donc la couverture est quand même assez complète et assez généreuse.
Et pour terminer le tableau, avant de rentrer point par point dans chacun des éléments qui composent la santé au Québec, on vient de mettre le point dessus, c'est-à-dire qu'il y a un régime d'assurance maladie, la fameuse RAMQ, pour le Québec, ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément l'équivalent au Canada, parce qu'un autre élément, c'est qu'on est ici dans un système fédéral. Et alors, j'ai notamment vu, ça m'a sauté aux yeux, a priori pas qu'à moi, au moment de la pandémie, lorsque la vaccination est arrivée, que ça pouvait être un facteur... on va dire, si ce n'est de complexité, au moins de chicane. C'est-à-dire qu'on avait... Il faut me dire si j'ai des bêtises, mais grosso modo, le fédéral qui expliquait aux provinces, dites donc, moi, je vous ai fourni des vaccins, il faudrait peut-être penser un petit peu à vacciner. Et les provinces qui disaient, bah, vous êtes gentils, nous, on est prêts à vacciner, mais vous n'êtes pas capables de nous fournir les vaccins. Voilà. Donc, je me dis, ça ne doit pas être que simple tous les jours.
Non. En fait, y a la santé... et principalement l'apanage des provinces. Et donc, dans les champs de compétences qui ont été la Constitution, la Confédération, eh bien, l'éducation et la santé ont clairement été confiées aux provinces, à chacune des provinces, des 10 provinces et des territoires. Maintenant, il reste un enjeu qui est l'homologation, donc l'autorisation d'urgence, par exemple, des vaccins contre la COVID. Ça relève du fédéral, donc ça relève du Canada. Et dans ce cas-ci, l'approvisionnement et donc le contrôle de la qualité, le contrôle de la sécurité, l'étiquetage, ça relève du gouvernement canadien. Mais par la suite, la distribution, la façon de faire qu'on va mettre certains médicaments en vente libre ou non, ça relève davantage, en tout cas de la façon dont ils vont être utilisés et répartis dans les officines, ça relève davantage des provinces.
Ouais, et on est en plein dans l'actualité, hein, parce qu'on vient d'avoir des élections fédérales il y a quoi? Il y a 2, 3, 4 semaines maximum. Mm-hmm. Et il y a eu une petite passe d'armes assez sympatoche, ma foi, entre Justin Trudeau, premier ministre du Canada sortant et finalement réélu, et François Legault, premier ministre du Québec, l'un disant « je suis prêt à augmenter ma subvention, enfin mon transfert de fonds aux provinces pour qu'ils puissent augmenter leur budget santé, mais je veux savoir ce qu'ils feront de l'argent que je vais leur donner. » Et François Legault disant « non, précaré ici, hein, c'est de la responsabilité des provinces. » Envoyer l'argent, on en a besoin, mais après, c'est nous qu'on gère. On sent qu'il doit y avoir 2-3 réunions assez sympas quand même, de temps à autre, entre les deux.
Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est qu'il y a beaucoup de champs de compétences qui sont réservés au fédéral. Par exemple, les communications, la gestion des énergies, en gros. Mais la santé et l'éducation, je pense que les besoins peuvent être différents, mais ça se justifie que ce soit adapté à chaque province. On peut le voir sous différents angles. On pourrait dire le fédéral ne redonne plus ce qu'il donnait au départ. À la création de l'assurance, le fédéral redonnait 50% des sommes qu'il récupérait aux provinces. Et là, écoutez, ça s'est effrité jusqu'à à peu près 20% actuellement. Alors, ce que les provinces demandent, c'est de remonter à 35% au moins les contributions du fédéral, les transferts. Et on peut dire, le fédéral dit oui, je vais vous redonner cet argent à condition de dire à quoi il va servir, mais on pourrait aussi dire, est-ce qu'on avait raison de vous confier cet argent-là, puisque maintenant vous mettez des conditions pour nous le redonner?
Oui, et surtout au sortir des mois qu'on vient de vivre où tous les systèmes de santé ont été mis à dure épreuve et les manquements que ces transferts de fonds manquants, les résultats de ces transferts de fonds manquants se sont vus, le manque de personnel, le manque de ressources.
Je trouve que la santé fait référence à beaucoup de problèmes qui effectivement sont spécifiques. C'est sûr qu'à travers tout le Canada, il y a des gens âgés, mais le Québec en a plus, le Québec, l'Ontario, en toute proportion gardée, plus de personnes âgées. Alors ça aussi, on peut se dire, est-ce que chaque personne a la même valeur dans la redevance que le gouvernement fédéral redonne aux provinces. C'est un autre enjeu dont on pourrait parler. Mais on prend certains enjeux de santé qui, par exemple, sont très différents. La crise des opioïdes en Colombie-Britannique, là, qui est la province la plus à l'ouest, eh bien, elle est très, très présente depuis déjà plusieurs années, depuis au moins 10 ans. Il y a des dizaines de décès quotidiens par des surdosages ou par des médicaments qui sont des drogues qui sont auxquelles on ajoute du fentanyl, par exemple. Au Québec, on a un système, entre autres, pyramidal, qui fait que il y a une façon entre pharmaciens de se rejoindre par rapport à des gens qui abusent. C'est peut-être un volet, mais on a été beaucoup, beaucoup moins touchés par cet enjeu-là. De sorte que si on avait à répartir un budget à travers le Canada, c'est certain que la Colombie-Britannique mettrait beaucoup plus d'argent sur ce problème, qui est vraiment un problème très, très urgent, très aigu là-bas, alors qu'au Québec, c'est pas ça la priorité. Bon, à travers tout ça, c'est sûr que tout le monde a des problèmes, des enjeux au niveau de l'accompagnement des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Donc ça, c'est pan-canadien, mais la façon de régler ces enjeux-là n'est pas nécessairement la même encore. Alors ça, c'est malheureux parce que quelque part, ça fragilise cette relation entre les provinces et le Canada parce que c'est une confédération. Hein. Une confédération, c'est censé respecter beaucoup les prérogatives de chaque province. Et ce genre d'affirmation vient un peu compromettre, je dirais, l'espèce de lien de confiance qui devrait s'installer.
Ouais. Ouais, c'est sûr que c'est un vaste débat, mais c'est vraiment pas neutre, effectivement, dans le système ici. Pour en revenir un petit peu à la santé du quotidien, j'aimerais bien essayer de juste comprendre la philosophie du système de santé au quotidien ici. Je vais expliquer ma question parce que je pense que en l'état, elle est pas super claire. Je me suis renseigné, évidemment, comme beaucoup avant de venir. Voilà, j'ai regardé un petit peu les témoignages et les choses comme ça. Et ce que j'en comprenais, en gros, c'était que pour tout ce qui va être, on va dire, de la médecine vraiment du quotidien, ce qu'en France, on appelle la bobologie, je ne sais pas si le terme existe, mais les petits rhumes, les petites choses comme ça et tout.
On dit première.
Voilà. Bon, en gros, ici, c'était, on faisait beaucoup appel à l'automédication et, je vais y revenir juste après, au pouvoir de conseil du pharmacien, mais sans forcément, on va dire, mettre toute une grosse machine en marche, là où en France, dès qu'on a quoi que ce soit, il faut tout de suite aller voir son médecin de famille, pour ne serait-ce qu'avoir un parcours coordonné. Donc, je vais dire quelque chose d'assez, d'assez autonome, où chacun peut se débrouiller dans le soin du quotidien. Par contre, une grosse machine qui prend vraiment, alors pour le coup, tout en charge, et tout le monde m'a dit, en gros, si tu as un gros pépin de santé au Québec, tu es super bien pris en charge et super bien soigné, et à tout point de vue, c'est-à-dire que sur un plan financier, sur un plan d'aide, sur un plan logistique, et évidemment sur un plan médical, en disant, voilà. Grosso modo, la philosophie d'ici, ce serait plutôt de dire, on va mettre vraiment les gros besoins et les grosses ressources vraiment dans les cas les plus graves, les plus importants. Et pour le quotidien, on va faire confiance tant aux patients qu'au pouvoir de recommandation, en l'occurrence du pharmacien. Question à la pharmacienne.
Alors, en fait, ça me plaît beaucoup parce que vous avez parlé du rôle conseil et je suis allée à 3 occasions comme maître de conférence dans des facultés de pharmacie en France. Et depuis 1985, en fait, on essaie d'implanter un concept qui s'appelle les soins pharmaceutiques. Alors, on parle de soins médicaux, on parle de soins infirmiers. Et quand on parlait du pharmacien, on parlait de pilules, on parlait de donner des conseils. Mais il y a une façon de responsabiliser le pharmacien, mais aussi de lui permettre de vraiment prodiguer des soins pharmaceutiques. Et ça veut dire que quand on remet un médicament à un patient, que ce soit un médicament d'automédication en vente libre, ce qu'on appelle ici, ou un médicament sur ordonnance, on a une certaine responsabilité d'accompagner le patient et d'abord de fixer des objectifs réalistes sur ce qu'est-ce qu'on peut attendre de ce médicament-là ou de cette pharmacothérapie-là quand il y a plusieurs médicaments. Donc, des objectifs précis et des résultats qu'on essaie de mesurer et de faire évoluer le plus possible. Et donc, tout à coup, en termes de responsabilité professionnelle, ça fait que le pharmacien a l'obligation d'une surveillance qui dépasse le conseil. Alors, quand j'ai commencé comme pharmacienne, effectivement, je devais donner les conseils les plus appropriés, les meilleurs. Mais si au bout d'un mois ou deux mois, je questionnais pas le patient pour savoir si son incontinence urinaire s'était améliorée avec le médicament que je lui avais donné et qu'il était toujours prêt avec le même problème, je n'avais pas cette imputabilité, je n'avais pas la responsabilité d'accompagner le patient. Alors, on nous a accordé cette responsabilité-là, mais avec des moyens qui, il y a 10 ou 15 ans, étaient insuffisants. Et maintenant, on nous a donné, comme pharmaciens, la possibilité de demander des analyses de laboratoire, d'avoir accès aux résultats, de pouvoir prolonger des ordonnances, de pouvoir les modifier, de pouvoir ajuster immédiatement s'il y avait une allergie. On peut déjà faire le changement. On peut, bien sûr, vacciner maintenant, administrer des médicaments pour montrer aux patients comment le faire correctement. Et on peut encore faire plus d'actes que ça quand on travaille en équipe multidisciplinaire où là, vraiment, on a une autonomie encore plus grande. Alors ça répond vraiment à un nouveau rôle du pharmacien. Et au Québec, on a deux facultés de pharmacie et on a eu la chance, le privilège, je dirais, de faire que les deux facultés, en même temps que l'Ordre, donc le Conseil national en France, l'équivalent, et donc que les grandes et les associations de pharmaciens ont d'un commun accord dit on va aller vers ce concept des soins pharmaceutiques pour plusieurs raisons. C'était plus exigeant, c'est sûr que c'est plus exigeant, ça augmente la responsabilité, mais ça répond à un besoin de la population. Tantôt, je parlais de la difficulté d'accès, mais même s'il n'y avait pas une difficulté d'accès, je pense que d'un point de vue sociétal, on doit faire en sorte que chaque professionnel fasse le maximum avec ses compétences. En pharmacie, c'est la même chose en France. Ce sont des gens qui ont, ici, on appelle ça une cote R, donc de très, très bonnes notes, qui ont un potentiel important. Et le simple fait de remettre une boîte de médicaments et de valider un contenu, c'est pas suffisant comme ce qu'on doit remettre à la population en termes d'une part de formation qu'on a, parce que les formations de pharmaciens autant en France qu'ici sont extrêmement exigeantes, rigoureuses, mais elles doivent aussi s'ajuster vraiment aux besoins de la population. Et c'est un des enjeux des soins pharmaceutiques, c'est que les concepteurs Epler et Strand dans les années 92 ont dit il faut vraiment que ce soit arrimé non seulement aux besoins du patient, mais aussi aux besoins de la société. Et donc, quand on élargit et qu'on regarde qu'est-ce que la société a besoin de son pharmacien, on voit tout de suite qu'il y a d'autres dimensions qui s'ajoutent. Et c'est ça qu'on est vraiment en train de mettre en place. De 2009 à 2014, tantôt vous disiez, quand j'étais présidente de l'Ordre des pharmaciens, ça a été vraiment un combat. Et on peut le dire comme ça, il y avait énormément de résistance. Plusieurs autres provinces canadiennes avaient ouvert les champs d'exercice des pharmaciens avec quelques actes. Mais au Québec, on était le seul endroit où on avait 25 % des gens qui n'avaient pas accès à un médecin de famille, alors que dans les autres provinces, c'était 5 ou 10 % seulement. Et nous, on était vraiment encore circonscrits à nos anciens rôles et à nos anciens champs d'exercice. Alors, j'ai donc fait avancer cette loi. Mais pour vous montrer la résistance, la loi a été adoptée en décembre 2011 à l'unanimité par les 125 députés de l'Assemblée nationale.
Bravo.
Elle est entrée en vigueur en 2015.
En 4 ans.
Donc, il y a eu encore 4 ans de résistance à tous les niveaux, que ce soit sur le remboursement de ces actes, que ce soit sur la reconnaissance, en fait, les règlements qui découlaient.
Oui, comme toujours, on est d'accord sur le principe. Déjà, on met du temps à se mettre d'accord sur le principe, mais après…
Et on ne s'en fait pas l'urgence, alors que comme pharmacien, et ça c'est aussi vrai en France qu'ici, nous sommes vraiment des professionnels qui sommes au carrefour de la vie des gens. Nous sommes là au test de grossesse et nous sommes là dans les soins palliatifs. Nous sommes là tout au long de la vie quand les gens sont hospitalisés, quand ils reviennent de l'hôpital. Alors, on est vraiment très, très conscient. On est disponible. Je ne sais pas comment c'est maintenant en France, mais au Québec, le pharmacien est à peu près le seul professionnel qu'on peut voir sans rendez-vous. Alors, donc, on peut entrer et avoir cet accès direct. Par contre, c'est sûr que c'est très exigeant et il faut lui donner les moyens de résoudre des choses. Et là, maintenant qu'on a fait quand même avancer beaucoup de choses du côté des pharmaciens, je suis très contente de voir qu'on fait un peu la même démarche. Là encore, ils ont de la résistance et je m'empresse de témoigner pour eux parce qu'il faut ouvrir sur les physiothérapeutes, par exemple, qui peuvent faire énormément dans les blessures sportives ou dans les blessures traumatiques, mais ils doivent exclure un diagnostic de fracture avant. Donc, il faut leur permettre de demander une radiographie. Sinon, ils sont limités, alors qu'autrement, ils ne sont pas limités, ils sont experts. Et très souvent, on va faire passer le patient par l'hôpital pour la radiographie ou la clinique, par un médecin qui, lui, va finir par référer au physiothérapeute. Alors, il y a des façons d'accélérer, d'améliorer l'accès. Même chose pour les psychologues du côté de la santé mentale. Il faut ouvrir beaucoup, beaucoup plus à ce niveau-là parce qu'on a vraiment des enjeux de mieux accompagner les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, qui occupent énormément de place dans les urgences. Et là, le fait de manquer autant d'accès, eh bien, il y a des enjeux, c'est qu'il y a énormément tout le monde qui n'a pas accès à un médecin de famille, sa porte d'entrée pour une blessure mineure ou pour un petit événement qui surgit, c'est l'urgence de l'hôpital. Et l'urgence de l'hôpital, je le qualifie un peu du Ritz-Carlton, du réseau de la santé. Là. C'est comme si on entrait toujours et on n'allait jamais manger dans notre petit bistrot, notre petit resto sympa. Mais donc, ça coûte très cher, juste ouvrir un dossier à l'urgence. Et là, les temps d'attente sont tellement longs pour les gens qui n'ont pas effectivement besoin de la plateforme urgence, la technologie et toutes les ressources qu'on y trouve, que ces gens-là attendent 16 heures, 20 heures, se découragent, quittent. Donc, on a payé l'ouverture du dossier qui est de 200-300 $ et on a toujours pas d'accès. Alors, ça, il faut encore travailler là-dessus, mais je suis confiante et on voit aussi une ouverture du côté des médecins actuellement, une ouverture du côté médical. Les jeunes médecins disent « oui, on ne peut pas tout faire, on ne fournit pas à la tâche, donc il faut permettre au plus grand nombre de professionnels ». Et moi, je prétends que la compétence, ça se définit par 3 choses. Et ce n'est pas notre diplôme nécessairement qui détermine notre compétence. Donc, la compétence, c'est bien sûr d'abord la formation et la formation continue. Hein? On s'entend donc ensemble parce que ce qu'on a appris il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, qu'on soit médecin, infirmière ou pharmacien, ça évolue. Donc, l'aspect formation. Ensuite, le deuxième élément de la compétence, c'est ce qu'on appelle le N, le nombre de fois qu'on a à faire quelque chose. Donc, si je suis un ORL et que je n'ai pas fait d'examen vaginal depuis 20 ans, ce n'est pas parce que j'ai un titre de médecin que je suis nécessairement le plus compétent. Si je suis pharmacienne et que je n'ai pas fait certaines activités ou certaines clientèles, parce que dans ma clientèle, j'ai très peu de personnes qui ont cette maladie. Donc, le N. Et finalement, ensuite, savoir ses limites. Être capable de reconnaître que là, je ne sais pas. Je ne sais plus ce que je dois faire. Et c'est ça, donc, quand on a des besoins, il faut vraiment s'arrimer aux besoins de la société, de la population, des citoyens avec lesquels on cohabite et essayer de trouver des voies de passage, des trajectoires de soins les plus efficaces pour eux et les plus efficaces pour l'ensemble du système.
L'une des grosses différences, parce qu'on a fait pas mal de comparatifs ou de poser des hypothèses de comparative avec la France. Pour moi, la grosse différence, moi qui suis maintenant depuis 1 an et demi ici, c'est vraiment le rôle du pharmacien. En France, en fait, moi, je pense que pour ceux qui sont pharmaciens ou qui sont en études de pharmacie en France et qui, s'ils écoutent ce balado, ils doivent être en train de réserver un billet d'avion. C'est-à-dire que, non, mais sérieux, parce que moi, mes études datent d'il y a pas mal de temps, mais à l'époque, j'avais quelques amis qui étaient en pharmacie. Et après 2-3 années, alors qu'ils n'avaient pas commencé à exercer, ils avaient déjà, alors, désolé pour l'expression française, les grosses gougoules, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils, vraiment parce qu'ils sentaient bien qu'ils avaient ils étaient dans un domaine d'expertise extrêmement élevé, qu'on leur demandait beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, et qu'ils avaient bien l'impression que leur rôle opérationnel derrière se limiterait à donner des boîtes et que la perception qu'ils avaient vis-à-vis du public, qui est quand même quelque chose d'important, la manière dont on est reconnu, était que c'était des épiciers très bien payés. Et ils le vivaient très mal. Et je pense que c'est encore pas mal le cas pour beaucoup d'entre eux. Moi, pour avoir souvent demandé des conseils à ma pharmacienne, à Malakoff à l'époque, que je salue au passage, je l'ai toujours senti presque ravi, mais limite presque pas honoré, il ne faut pas déconner, mais vraiment, c'était bien que quelqu'un lui demande un conseil médical. Enfin, médical, je m'entends, voilà, j'ai un petit truc, plutôt que d'aller consulter, je lui demandais. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore très, très, très développé. Il y a qu'à voir, je ne sais pas comment ça s'est passé ici, mais simplement pour que les pharmaciens aient l'autorisation de vacciner, ce n'est pas allé de soi. Hein. Ce n'est pas allé de soi, alors qu'a priori, on avait quand même besoin de tout le monde sur le pont. Donc, c'est vraiment le point des pharmaciens. Et puis, un autre point tout bête qui vous concerne directement. Je n'imagine pas 2 secondes aujourd'hui en France que pour être, on va dire, le porte-parole professionnel des sujets santé dans une grande télévision, en l'occurrence comme TVA ou LCN, qui, je le répète pour les autres, sont un peu l'équivalent de TF1 et de LCI, on aille prendre un pharmacien ou une pharmacienne. On ne le ferait pas. D'ailleurs, je les vois, ceux qui parcourent les télévisions françaises, ils sont tous professeurs de je ne sais pas quoi, chirurgiens, de docteurs et tout. À mon point de vue, d'ailleurs, ils sont tous plus anxiogènes les uns que les autres, en général, même quand ils essayent d'être cool. Voilà. Mais voilà, on ne l'aurait pas fait. Autre différence, on en a parlé très brièvement, mais je voudrais juste y revenir pour comprendre un peu son rôle. Le système se repose énormément sur les pharmaciens parce qu'il y a eu un gros travail qui a été fait, mais peut-être aussi parce qu'effectivement, il y a une grosse, si ce n'est pénurie, enfin un gros manque du côté des médecins dits de famille. J'aimerais bien déjà comprendre en fait quel est le statut des médecins de famille ici. Je n'ai pas encore réussi à comprendre si c'était des indépendants ou si c'était des employés de l'État. Parce que moi, on m'a dit quand je suis arrivé, écoute, si tu veux un bulletin d'un médecin de famille, il faut que tu ailles sur un site officiel du gouvernement, enfin de la RAMQ. Il a déjà fallu le trouver, ce n'était pas simple, que tu t'inscrives. Que après tu te calmes, tu prennes un thé, quelque chose, quand tu vas voir le message arriver qui te dit qu'il va falloir que tu attendes 2 ans et demi en moyenne avant qu'on te fournisse quelqu'un. Alors que moi, jusqu'ici, quand je voulais avoir un médecin, j'appelais un cabinet médical, je prenais un rendez-vous et quand j'avais mon rendez-vous, alors parfois il faut attendre, hein, c'est pas Disneyland non plus. Hein. Des fois, il faut franchement attendre. Mais une fois que j'étais là, si ça se passait bien, je disais, je signe un petit papier, bonjour, vous êtes mon médecin traitant, mais ici, c'est très réglementaire. C'est quoi le statut exactement du médecin de famille?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Oui, c'est une très bonne question. C'est un enjeu. En fait, il y a une quinzaine d'années, développé un concept. Les médecins travaillaient beaucoup dans des cliniques médicales dont ils étaient en général propriétaires, mais ils étaient quand même des employés de l'État parce que leur rémunération venait exclusivement de la régie d'assurance maladie, donc rémunération à l'acte. Alors, c'était cette façon un peu hybride. Et là, devant la difficulté d'accès, on a dit on va créer des groupes de médecine de famille. Donc, groupe de médecine de famille ne veut pas dire nécessairement seulement groupe de médecins de famille, mais un regroupement dépendant des régions, mais c'est entre 6, 10. Ça peut aller à des plus grands réseaux de 20 médecins ensemble, mais on a fourni, donc quand je dis « on », c'est l'État, a fourni à ces groupes de médecine des infirmières qui étaient dans le réseau et qu'on a dit « vous allez être attachés à la clinique », des travailleurs sociaux plus récemment, des psychologues et des pharmaciens. Et donc, cette équipe, vous allez contribuer à la prise en charge des patients. Et avec des incitatifs financiers très significatif pour inscrire les patients, mais également une responsabilité en termes de ce qu'on appelle un taux d'assiduité, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes inscrit à ce médecin, vous devriez être capable de le voir et le médecin devrait se rendre disponible pour vous voir. Et là, alors il y a eu vraiment une situation où ça a été très mal reçu. Et il y a des cliniques qui fonctionnent très bien maintenant. Il y a des regroupements qui fonctionnent très bien, mais malheureusement, on a vraiment, en termes de nombre de médecins par habitant, on a quelque chose d'équivalent aux autres provinces qui fonctionnent mieux, où l'accès est plus facile. Mais ici, au Québec, on a demandé aux médecins de famille de faire plus de contributions à l'urgence des hôpitaux. Et donc, ça veut dire que le médecin de famille, il ne travaille pas seulement dans son cabinet, mais il doit aussi, dans bien des cas, travailler un certain nombre d'heures, en tout cas en début de pratique, à l'hôpital. Et tout ça fait que, on n'a pas vraiment un contrôle sur l'horaire du médecin. On ne peut pas exiger d'un médecin qu'il travaille 40 heures parce qu'il n'est pas vraiment un salarié de l'État. Il est un entrepreneur dont la rémunération provient de l'État, mais il est entrepreneur. Alors, c'est un peu un concept de salarié, pas de patron,
c'est Uber.
Entrepreneur, pas de compétition. Mmh. Et là, ça donne une situation où, on est vraiment en crise. Comme je disais tantôt, là, 800 000 personnes qui n'ont pas accès à un médecin de famille, et votre situation est typique. Là, vraiment, ça peut prendre jusqu'à 2 ans et demi. Si vous avez une douleur intense, une crise cardiaque, vous allez être admis à l'urgence.
Et oui, sans problème.
Et avoir des gens extrêmement compétents, des plateaux techniques extrêmement performants et des soins vraiment indiscutables, de qualité supérieure. Mais pour la première ligne, c'est beaucoup plus difficile. Et le problème, c'est que parfois, le problème grave ne se manifeste pas toujours par un symptôme aigu. Alors, on peut avoir, par exemple, un cancer cutané qui se manifeste par une tache noire. Et puis, si on ne peut pas voir un médecin avant 3 ans, qu'est-ce que ça peut donner comme conséquence?
Donc, c'est sûr.
Il y a cet enjeu-là qui actuellement fait que il faut trouver des solutions. On a vraiment... Alors, on a le meilleur. Puis malheureusement, on a une grosse déficience qu'il faut améliorer. Mais quand vous parliez un peu du statut du médecin de famille, c'est un peu ça. Donc, on a beaucoup de médecins qui travaillent fort et qui travaillent intensément. Puis d'autres qui ont, pour des choix de vie ou des différentes façons personnelles, qui travaillent moins. Et on n'a pas de façon à ce moment-ci d'exiger d'eux plus de disponibilité. Et donc, il faudrait probablement augmenter rapidement nos cohortes, mais former des médecins, ça prend plusieurs années.
Ça prend du temps, oui.
Et c'est pour ça qu'on est vraiment très ouvert aussi à donner plus d'autonomie. On a des infirmières praticiennes spécialisées qui sont des infirmières qui ont 5 années d'université, qui peuvent vraiment être en première ligne et faire énormément de triage pour les premières. C'est qu'il faut voir les gens au moins une fois pour justement évacuer, déterminer s'il y a des signes et symptômes, des signaux d'alarme. Et donc, être capable de faire ce premier tri rapidement, pas 2 ans et demi plus tard. Alors, donc, on a beaucoup d'ouverture pour ça et également, donc, les champs de compétences des autres professionnels qui s'élargissent. Mais on a besoin d'une organisation.
Juste pour rassurer ceux qui nous écoutent, quand je leur dis que le message à l'inscription dit que c'est 2 ans et demi, je ne déconne pas, c'est vraiment 2 ans et demi. Et encore, ça varie selon votre âge. Si vous avez, si vous déclarez déjà des maladies et tout, ça peut aller jusqu'à plus.
Ceci étant dit, vous découvrez, mais vous pouvez même reculer sur la liste.
Super. Joie, bonheur et allégresse.
D'ailleurs, on m'a dit que très âgés qui s'y inscrivent. Je ne sais pas, moi, s'il y a 3 médecins qui, pas 3, là, mais on a beaucoup de médecins plus âgés qui risquent de prendre leur retraite éventuellement. Donc, si ces médecins ont des patients très âgés, très à risque, ben, ils vont avoir priorité sur vous qui êtes jeune et en santé. Là.
Jeune, c'est trop relatif, mais en santé, oui, globalement, ça va plutôt pas trop mal. Mais c'est vrai, en plus que ce problème-là, il ne concerne pas que les nouveaux arrivants. Hein, parce que moi, je discutais avec des voisins il n'y a pas très longtemps qui se demandaient s'ils n'allaient pas changer de région. Et très vite, en fait, l'une des raisons pour lesquelles ils se sont dit « Non, on ne va pas déménager », c'est qu'ils se sont dit, on a tellement galéré pour obtenir un médecin de famille ici, si on déménage, on retombe en bas de la liste, il va encore falloir attendre 2 ans et demi et tout. Et non, c'est... Donc, en fait, ils ne déménageront pas pour ne pas perdre leur médecin de famille. C'est quand même particulier.
C'est vraiment une situation particulière. Je pense que dans les 5 à 10 prochaines années, il va y avoir un rééquilibre qui va se faire. Mais on a du retard. On a du retard parce que même si aujourd'hui, on est très fiers, effectivement, de, par exemple, ce que les pharmaciens peuvent faire, et les médecins en témoignent là, maintenant, mais on a eu un délai de 5 à 10 ans. Je prends l'exemple de l'Ontario. Ils ont 3 500 infirmières praticiennes spécialisées dont je vous parlais tantôt. On en est à 700 ici parce qu'il y a 10 ans, il y avait une résistance à accueillir ces femmes et ces hommes, là, parce qu'il y a certains hommes aussi qui font le programme, mais principalement des femmes qui sont vraiment bien formées actuellement pour accueillir les gens à la première ligne. Alors, ça va évoluer, mais on a encore une période de tension.
C'est sûr, il faut du temps. Il y a quand même une petite lueur d'espoir. Là aussi, c'est un témoignage personnel, mais n'étant là que depuis 1 an et demi, j'ai quand même réussi par 2 fois à consulter un médecin de famille grâce à la télémédecine, à des applications qui existent. Il y en a pas mal, c'est assez développé. Bon, c'est payant, voilà, donc c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, mais au moins quand on a quelque chose, on n'est pas forcément tout de suite contraint d'aller aux urgences. Il y a quand même des moyens de, on va dire, c'est pas idéal, c'est pas quelqu'un qui nous connaît, mais au moins on peut voir quelqu'un, même pour quelque chose de très mécanique. Bon, en l'occurrence, c'était une épaule en vrac, hein, donc j'aurais pas forcément pensé à faire soigner une épaule en vrac par télémédecine. Et au final, ça marche très bien.
Mais ce sont des bases communicantes et il faut faire attention parce que plus le médecin passe de temps dans le système privé, moins il en passe dans le système public et donc plus on diminue l'accès du système public. Alors, il faut être très prudent. Moi, je pense que c'est quand même... Dans les enjeux qui contribuent à la justice sociale, tantôt vous parliez que j'avais été présidente de Pharmacie sans frontières, quand même j'ai vu beaucoup de pays, pas tous très, très défavorisés, un certain nombre très défavorisés. Je suis allée à Haïti, je suis allée dans plusieurs pays d'Afrique, mais des pays aussi européens, la Bosnie, le Kosovo, l'après-guerre et tout ça. Donc, il y a plusieurs... L'élément, vraiment un élément déterminant de la justice et de l'équité sociale, c'est cet accès universel au système de santé. Et quand on se met à faire payer les gens, finalement, il y a des gens pour qui même un petit montant est un frein à l'accès. Et ce sont des gens souvent défavorisés, des gens qui ont des problèmes physiques, mais jumelés avec des problèmes psychosociaux. Et ça, si on n'en prend pas bien soin de ces gens-là, bien, ça amène d'autres conséquences qui peuvent affecter la qualité de vie de l'ensemble d'une société. Alors, je crois qu'on doit prendre la mesure. Et une des choses que j'ai faites quand j'étais députée à l'Assemblée nationale, on a maintenant un carnet santé, donc on peut aller consulter certaines données. Et j'avais demandé que, avec la RAMQ, on inscrive le montant, la valeur des activités, des soins qu'on avait reçus. Et donc, ça s'est ajouté, cette dimension-là. Pas les honoraires des médecins, ça, c'est pas dans le système, mais le coût d'un examen pour qu'on prenne la mesure de la valeur d'un système de santé publique. C'est incroyable. On entre là, on présente une petite carte comme si c'était une carte de crédit, puis on n'a jamais de facture. Là.
C'est exactement ça. Et d'ailleurs, on le dit, la santé, c'est gratuit.
Oui, c'est gratuit. Alors que les tests peuvent coûter 5 000, 10 000, 100 000 $ dans certains cas, et on n'a même pas une notion, une connaissance. Donc, comment être reconnaissant de ça? Et oui, on est capable, quand on a une condition mineure comme votre épaule, mais la journée où vous auriez une maladie beaucoup plus grave qui coûterait des centaines de milliers de dollars, là, il faut vraiment que le système public soit au rendez-vous et qu'il soit encore présent et qu'il soit encore fort et qu'il soit encore bien nanti de tous ces professionnels et des plateaux techniques qui sont nécessaires pour qu'on puisse
bien. Et ça, c'est vachement bien de valoriser vraiment, mais en espèce sonnante et trébuchante, mais dire combien ça coûte, parce que quand on va dans une chambre d'hôpital, on y reste 2-3 jours, ça ne nous coûte absolument rien. En général, on sort en disant « Ok, ça va mieux, mais la bouffe n'était pas bonne ». Donc, on râle. Oui. Donc, en tout cas, si on est français, on râle parce que nous, on râle, c'est notre truc. Voilà.
C'est notre français, là. On veut le meilleur. Mais on n'est pas…
Mais voilà, on ne se rend pas compte que tout ça, ces 3 petits jours-là, ont coûté souvent des centaines de milliers d'euros, de dollars. Enfin, voilà, parce que les gens, les compétences, le fait d'avoir toujours quelqu'un du jour, de la nuit, enfin, c'est fou, quoi. C'est complètement fou. Absolument. Donc, voilà. Avançons dans la santé du quotidien. On en a parlé un petit peu. Alors, il y a les spécialistes. Et les spécialistes, le premier truc qui m'a surpris ici, c'est qu'il y a des spécialistes qui n'ont pas le même nom ici que chez moi. Enfin, chez moi, dans mon ancien chez moi, j'entends, parce que mon nouveau chez moi est ici. Par exemple, j'ai cherché en vain d'aller voir un ophtalmologiste et je me suis finalement rabattu sur un optométriste pour mes yeux.
Ah, mais c'est différent.
Différent, mais je n'ai pas trouvé d'ophtalmo.
Non. Alors, l'optométriste, c'est un professionnel diplômé universitaire, 4 années d'université, et il a plus la notion de surveiller, de faire les examens de la vue et de traiter, en fait, d'identifier précocement certaines maladies, le glaucome, par exemple, le dépistage du glaucome, d'ajuster les lentilles ou les lunettes en conséquence. Mais c'est pas lui qui va les fabriquer. Normalement, on a un autre qui s'appelle un opticien d'ordonnance, qui est celui qui s'occupe un peu plus de la préparation. Il y a certains optométristes qui s'occupent aussi de faire les lunettes, mais opticien d'ordonnance, optométriste, et ensuite, ophtalmologiste, pour vraiment les problèmes très graves au niveau de la vue ou de l'œil. Alors, l'ophtalmologiste, il faut passer par un médecin de famille pour avoir une consultation ou un optométriste dans certains cas. Maintenant, ça fait partie des nouveaux corridors de soins qu'on a ouverts. Et aussi, une relation entre les pharmaciens et les optométristes. Donc, on est capable de se référer mutuellement des gens. Et donc, c'est possible de pouvoir le faire.
C'est marrant, parce que moi, par exemple.
Il y a un frein à l'accès à l'ophtalmologiste. Donc, il y a un intermédiaire.
Moi, je ne connaissais pas ce rôle-là d'optométriste. Pourtant, j'ai des problèmes de vue depuis l'âge de 2 ans et demi. Donc, ça commence à, à faire un poil. Et j'ai toujours eu que l'ophtalmologiste d'un côté que j'allais voir en général à peu près tous les ans, qui est souvent d'ailleurs un chirurgien ophtalmologiste, en tout cas en France, et puis vraiment l'opticien pour, une fois que j'avais mes prescriptions, choisir des lunettes qui allaient me rendre d'un sex appeal absolument torride quand c'était comme des culs de bouteille à l'époque. C'était des trucs énormes. Voilà. Ok, bon, il y a deux trois petites choses comme ça qui changent, mais rien de bien méchant. Et puis, bah, le dernier étage de la fusée, si je ne dis pas de bêtises, bah, c'est l'hôpital. L'hôpital ici. Alors, pour le coup, mais c'est presque dommage, j'ai pas trouvé beaucoup de différence entre l'hôpital québécois et l'hôpital français. Et pourquoi je dis que c'est presque dommage? Parce que bah, quand on en parle aujourd'hui, on en parle à peu près avec les mêmes mots. Et les mêmes mots, je l'écris M-O-E-T-T-S, mais aussi M-A-U-X. Pénurie de personnel, pénurie d'infirmières, manque de reconnaissance financière notamment. On sent un hôpital qui est à la fois performant. Tous les gens qui y vont en sortent, ils sont contents. Ceux qui, en ce moment, ne peuvent pas y aller râlent parce que ben, y a des retards, des reports de soins qui sont faits. Mais voilà, un hôpital performant, mais un hôpital qui souffre.
Effectivement, il y a eu une situation où on n'a pas été assez à l'écoute, principalement des infirmières, mais aussi des préposés aux bénéficiaires, où on a instauré des réductions ou des contrôles, ne serait-ce que de maintenir un budget sans l'augmenter dans un établissement de santé, ben c'est sûr que l'indexation des salaires, tout ça, ça fait qu'on est obligé de couper sur autre chose. Et donc, on n'a pas remplacé certains postes, on n'a pas... Mais peut-être aussi qu'on a concentré beaucoup de choses à l'hôpital et que là, on commence à se dire, mais peut-être qu'il y a d'autres endroits où il faudrait... amener les gens avant d'aller à l'hôpital ou je prends l'exemple, j'en ai parlé tantôt, mais des problèmes de santé mentale. Moi, j'ai été sur le conseil d'administration d'un groupe de paramédics, donc d'ambulanciers, et il me disait, dans une semaine, on peut avoir 3 fois la même personne en détresse mentale qui nous appelle, on l'amène à l'hôpital, on la garde pour 24 heures, on la fait ressortir. 2 jours plus tard, elle appelle encore. Ah oui. La seule option qu'on a, c'est de la ramener à l'hôpital. Donc, ça, c'est une façon inadéquate de répondre à un besoin de santé. Et ça coûte cher et c'est pas performant et c'est pas aidant pour les personnes. Donc, on n'apporte pas le bon soin à la bonne personne. Donc, il y a vraiment une réflexion profonde à faire à ce niveau-là. Maintenant, pour les infirmières, effectivement, on a vraiment manqué un rendez-vous. On a beaucoup aussi fait de grands centres. Donc, en 2015, le ministre de la Santé de l'époque a décidé, on était dans une période qui avait été décrétée d'austérité par le gouvernement de cette époque-là, et on en a profité pour faire une grande centralisation, de sorte que tout le monde était regroupé dans à peu près une trentaine de grands centres qui incluent l'hôpital, mais aussi les maisons de retraite ou ce que nous on appelle les CHSLD ou les centres locaux de services comme l'OTAN. Donc, on a tout rapatrié ça dans quelque chose qui est géant, un mammouth, et donc où les enjeux, par exemple, de protection de la jeunesse ou les enjeux de santé mentale ou de gens très âgés en perte d'autonomie à domicile n'étaient pas entendus. C'est très difficile de les faire se rendre jusqu'au point décisionnel. Alors, c'était ça crée vraiment de grandes lacunes et des préjudices jusqu'à un certain point là, à ces groupes-là, parce que, évidemment, l'hôpital, on disait que ça fait des systèmes hospitalo-centré, et un hôpital, ses besoins sont illimités, autant en besoin de médicaments qu'en équipement, qu'en technologie. Alors, tout ça, ça fait qu'on a un peu abandonné les travailleurs de la santé et les gens qui étaient près des gens. Et c'est ça qui amène cette situation-là. Je vais quand même faire un bémol parce que dans les hôpitaux, en tout cas du Québec, par rapport aux hôpitaux que j'ai eu la chance de voir en France et où les soins sont excellents aussi en France, mais au Québec, on a quand même des équipes interdisciplinaires, je pense, beaucoup plus développées que ce qu'on a en France. Et donc, on a des pharmaciens qui sont sur les départements d'hémato-oncologie et qui participent vraiment intensément avec les médecins. On a avec les équipes, avec les infirmières. Donc, il y a vraiment un travail multidisciplinaire, interdisciplinaire, très, très développé dans beaucoup d'hôpitaux. Ça, c'est bien, bien acquis, c'est bien installé, c'est bien valorisé, je dirais. Et il faut trouver la même façon de faire maintenant en communauté pour les soins ambulatoires. L'autre dimension où on s'est distingué aussi, c'est l'aide médicale à mourir. Mmh. Alors, qu'on a accepté depuis déjà quelques années et qui s'installe bien, tout en développant beaucoup de maisons de soins palliatifs qui offrent aussi un accompagnement très, très, très positif, autant pour les patients, parce qu'il y a une expertise. Hein. On pense souvent que les soins de fin de vie, bon, ben, c'est de la morphine, et puis c'est beaucoup plus complexe que ça. Et si on accompagne bien la personne, si on réussit à bien diminuer ses symptômes, et si on accompagne en plus ses proches, je pense qu'on réussit à faire de cette période qui est toujours douloureuse, une période de transition qui est un peu plus, un peu, en tout cas, qui permet à la vie de bien se continuer.
C'est sûr. C'est vrai que c'est aussi la gestion du grand âge. C'est un sujet à part entière. Très étonnamment, je l'ai évoqué avec ma dernière invitée, Gabrielle, dans le registre de l'immobilier. Je ne sais pas pourquoi c'était venu, mais avec quelque chose de progressif ici, on a les RPA, qui sont des résidences pour personnes âgées ou aînées. Je crois que ça a changé de nom. Où on a des gens qui sont encore en situation d'autonomie, mais qui vont bénéficier, on va dire, d'un environnement sécuritaire avec des animations, parfois une cantine ou une restauration collective qui peut être proposée, mais les gens restent autonomes. Et puis l'étape d'après, quand on a perdu l'autonomie, les CHSLD, qui sont l'équivalent pour les Français des EHPAD. Et c'est vrai que c'est un gros sujet. Je vois l'heure qui file et il va quand même falloir que je vous libère. Du coup, j'ai une question. Alors, la transition n'est pas facile, mais celle-là, elle est quand même super importante et elle fera bien la conclusion. Moi qui viens d'arriver au Québec et qui ne suis pas habitué à ces températures qu'on a pendant 6 mois de l'année, est-ce que je suis irrémédiablement condamné à avoir le nez qui coule pendant 6 mois?
Alors, vous allez probablement développer une certaine immunité à nos virus.
Alléluia.
parce que je vous dirais que chez les enfants, c'est très fréquent, mais habituellement, les adultes, on s'en sort à 2 ou 3 infections des voies respiratoires supérieures, là, rhume ou influenza par année, mais les enfants, eux, ont facilement 7-8 de ces infections. Il faut quand même noter que les mesures sanitaires qu'on a imposées à cause de la pandémie ont diminué énormément. L'année dernière, on n'a pas eu de grippe à peu près d'influenza. Donc, peut-être que le port du masque, c'est quelque chose qu'on devrait envisager quand on se sent un peu fiévreux et quand on a ces symptômes et qu'on diminuerait la propagation. Donc, je pense qu'on a un peu de sensibilisation commune à faire autour de ça. Mais autrement, oui, on a vraiment... on le sait, là, c'est pas le froid qui fait qu'on attrape ces virus. Hein? Il faut bien le clarifier. Les virus sont tout à fait, ils se reproduisent. Mais c'est la promiscuité, c'est la vie intérieure, c'est le partage de choses à l'intérieur, comme dans le lieu de travail avec les enfants. C'est ça qui nous permet par le contact.
Donc, le froid fait qu'on est plus à l'intérieur et le fait d'être plus à l'intérieur fait qu'on chope plus de malades. Donc, en fait, j'ai des conneries. C'est pas du tout la météo du Québec qui est très accueillante au demeurant. Il fait à peine frisquer l'hiver. C'est juste qu'on...
Mais en été, c'est magnifique.
Ah, mais sincèrement, j'adore l'hiver. J'adore l'hiver. Et la plus belle automne, c'est celle qui se termine. Ça a encore été super court cette année. Enfin, c'est un peu chelou, là. C'est l'automne. Qu'est-ce que l'automne, c'est beau ici.
Ah oui. Oh, c'est... Oui. Les couleurs, la variété des arbres, les essences qui sont très différentes et qui donnent vraiment des paysages uniques.
Et d'ailleurs, je trouve que le rapport à la nature pour une bonne santé, quelque chose qui est assez développé ici et qui est assez intéressant. Diane, mille merci. J'ai un merci particulier à faire parce que venant de France et d'un climat assez anxiogène, notamment télévisuel, je tenais vraiment beaucoup à vous remercier, moi, qui ne suis qu'un téléspectateur lambda, parce que le calme, la sérénité et toujours le sourire pour terminer chacune des interventions, et Dieu sait qu'il y en a eu énormément ces derniers temps, font que je pense sincèrement que ça a fortement contribué à la sauvegarde de ma santé mentale lors des derniers mois. Et ça fait vraiment du bien et ça fait partie des choses pour lesquelles je suis content d'être là.
C'est très gentil, c'est vrai. J'ai fait en moyenne 5 présences. Je vous parle de mon bureau dans les studios. Ce que les gens ignorent, c'est que pendant toute la pandémie et même encore, quand ils me voient à l'écran parler avec l'animateur, en fait, je parle à une caméra noire avec une petite flèche blanche. Mmh. Donc, le sourire, je vous imagine tous derrière parce que c'est à vous que je le fais, mais je n'ai aucune personne devant moi de proximité. Donc, les mesures de sécurité sont bien respectées. Mais je vous dirais que dans ma vie personnelle, je parlais de l'équité sociale, la justice sociale, l'accès à la santé, mais aussi l'accès à l'éducation, qui ici est vraiment universel avec des frais de scolarité très bas. Donc, mon père est décédé à 45 ans, très jeune, brusquement.
Oui, j'avais 16 ans.
Et si cet accès à l'éducation n'avait pas été abordable avec des frais de scolarité peut-être de 400 euros par trimestre, deux fois par année, si ça n'avait pas été ça, peut-être que j'aurais pas pu avoir accès à cette profession dont je suis si fière. Et l'engagement que j'ai pris après mon diplôme, et je pense que tous ceux qui ont accès à une profession et à des métiers maintenant aussi, c'est de dire je vais redonner au suivant et j'ai la responsabilité de partager ce que je sais, le privilège que j'ai eu d'apprendre, de savoir des choses que d'autres aimeraient bien savoir. Faut juste se rendre compte dans les réunions familiales, comment toujours un oncle, une tante, un petit conseil à nous demander, un ami. Alors, c'est un grand privilège que je considère. C'est-à-dire que j'ai, et donc, ma contribution, c'est de redonner aux Québécois, aux citoyens. Et j'ai eu la chance de pouvoir enseigner à des étudiants, de donner à mes patients. Et puis, à l'aide humanitaire et un peu le rayonnement comme professeur, m'a permis aussi de partager un peu ailleurs, à l'extérieur du Québec et du Canada. Et je vous remercie pour cette belle tribune, Jean-Michel. J'espère que je salue tous mes collègues et amis de France. Et on a quand même énormément d'affinités, de choses en commun.
Je pense que c'est assez clair. Il y a beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je suis toujours surpris de voir à quel point l'œil et l'oreille des Québécois, qu'on le voit dans la presse ou même au quotidien, ce temps et l'œil s'aiguise un petit peu dès qu'on parle de la France. J'ai l'impression qu'il y a un rayonnement. Il y a quand même un truc qui se passe. Il y a 6000 bornes entre les deux, mais il y a quand même une alchimie.
Une affection.
Ouais, on est bien quand on est ensemble, en fait.
Éternel.
Merci beaucoup, Diane. C'était un vrai plaisir, un bonheur. À bientôt à la télévision, je pense.
Oui.
Ça ne va pas s'arrêter tout de suite.
Non, on continue. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir. Et voilà. Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancée très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh bien, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu-frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu-frette, à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. Bah, j'avoue, c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le bédu, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu-frette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous, et à tantôt.
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.